Ce matin, je continue la série de messages sur le livre de Josué, Prendre possession de la vie promise en Jésus-Christ. Quelques personnes m'ont demandé, mais toi, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Ce n'était pas bien clair dans leur esprit ce que je voulais dire par la vie promise en Jésus-Christ. Donc, j'ai pensé, avant de commencer le message de ce matin, de vous citer quelques textes du Nouveau Testament que je pense peuvent nous donner un aperçu de ce que je veux dire par cette vie, la vie promise en Jésus-Christ. Donc, d'abord, en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand nous recevons Jésus comme Sauveur, c'est en ce moment que nous recevons une vie nouvelle en Jésus-Christ. Mais cette vie nouvelle est une vie, Jésus nous dit en Jean 3, 16, est une vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais il ait la vie éternelle. Donc c'est une vie éternelle. Mais aussi, Jésus nous dit en Jean 10, 10, que c'est une vie abondante. Cette nouvelle vie éternelle et abondante. Mais donc, je pense que quand nous regardons en Galates chapitre 20, chapitre 5, verset 22, Paul nous donne dans ce verset une description de qualité de vie, cette vie promise en Jésus-Christ. Elle est quoi? L'apôtre Paul nous dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Donc c'est en quelque sorte une description de cette vie promise en Jésus-Christ. Si ça c'était ma vie, je serais heureux, je serais en joie. Si ma vie était marquée par l'amour, par la paix, par la patience, la bonté. Et ça c'est la vie que Jésus nous promet. Promet. C'est la vie que Jésus veut nous donner. Mais il faut comprendre que ce n'est pas la promesse d'une vie en rose, où il n'y aura pas de souffrance. Quand Jésus nous dit en Jean 16, 33, je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans ce monde. Donc, il y aura la souffrance dans ce monde. Il y aura les difficultés, bien sûr. Donc, la vie promise de Jésus en Christ, ce n'est pas une vie qui n'a pas des épreuves, des problèmes dans cette vie. Mais notez comment il termine ce verset. Vous aurez à souffrir dans ce monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. D'accord? Donc nous pouvons avoir la victoire, nous pouvons avoir cette vie qui est promise. Donc, et il nous donne cette promesse encore en Romains, verset 8, verset 37. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Donc, cette vie éternelle, cette vie abondante, cette vie qui est marquée par le fruit de l'esprit, cette vie s'apprend. Nous devons la prendre en possession. C'est pour nous. C'est promis, mais nous devons le prendre en possession. Et si nous écoutons et appliquons ce que Dieu nous dit dans sa parole, nous nous emparons de cette vie promise. Le livre de Josué, ça c'est le livre dans lequel nous sommes dans cette série de messages, le livre de Josué nous raconte l'histoire de la conquête et la répartition du pays de Canaan par le peuple d'Israël. Et l'objectif de cette série est d'apprendre de Josué, apprendre du peuple d'Israël ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour s'emparer de la terre promise? Leur exemple nous enseigne. Nous voulons découvrir des principes pour nous aider à prendre possession de la vie promise en Jésus-Christ. Au chapitre 2, donc si vous avez vos Bibles, et bon, mais ça va. beaucoup des versets, on va afficher aussi, si vous n'avez pas la Bible. Au chapitre 2 de Josué, nous allons découvrir encore deux principes. J'ai demandé à Jean-Yves de lire le texte pour nous. C'est un peu long, mais je crois que c'est important d'avoir toute l'histoire dans nos têtes. Jean-Yves, si tu peux lire pour nous Josué chapitre 2.
Josué, fils de Noun, fit partir secrètement de Tsittim deux espions en leur disant: Allez explorer le pays, en particulier Jéricho. Ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée du nom de Rahab, et ils s'y couchèrent. On dit au roi de Jéricho: Des Israélites sont arrivés ici, cette nuit, pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: Fais sortir les hommes qui sont venus de chez toi, qui sont entrés dans ta maison. En effet, c'est pour explorer le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha. Puis elle dit: Il est vrai que ces deux hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et au moment où on allait fermer la porte, et à la tombée de la nuit, ils sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre et vous les rattraperez. Elle avait fait monter les espions sur le toit et les avait cachés sous les tiges de lin qu'elle avait arrangées. Ces hommes les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain, et l'on ferma la porte après leur départ. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer, des roseaux, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez exterminés. En apprenant, nous avons perdu courage et notre esprit est abattu devant vous. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous en prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour ma famille la même bonté que moi pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous les leurs, et que vous nous sauverez de la mort.
Ce n'est pas fini.
Ces hommes lui répondirent: Nous le jurons sur notre propre vie si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit: Allez du côté de la montagne, sinon vos poursuivants risqueraient de vous rencontrer. Cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'ils soient rentrés. Après cela, poursuivez votre chemin. Ces hommes lui dirent: Voici de quelle manière nous acquitterons du serment que nous a fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil rouge à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre, et rassemble avec toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Si l'un d'eux passe par la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur ta tête et nous en serons innocents. En revanche, si l'on porte la main contre l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, quel qu'il soit, son sang retombera sur notre tête. Si par ailleurs tu divulges ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit: Qu'il en soit comme vous l'avez dit. Et il prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent, puis il attacha le cordeau rouge à la fenêtre. Ils prirent et arrivèrent à la montagne où ils restèrent 3 jours jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient soient rentrés. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent dans toute la région, mais sans les trouver. Les hommes redescendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent vers Josué, fils de Noun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils lui dirent: C'est certain, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous.
Tu veux continuer un chapitre, toi? Non. En fait, c'est une histoire d'espionnage. Ça peut être un bon film, je pense, de regarder. Mais à travers cette histoire, nous apprenons au moins deux vérités importantes. Comme Josué et Israël avaient un ennemi, nous aussi, de notre part, nous avons un ennemi qui veut nous empêcher de prendre possession de la vie promise en Jésus-Christ. Et la deuxième leçon que je vois, la deuxième vérité importante, nous avons un allié qui veut nous aider à prendre en possession cette vie. Donc, un ennemi, un allié. Ce matin, j'ai pensé de prêcher sur tous les deux points, mais j'ai vu finalement que c'était trop. C'est même peut-être trop pour le premier point. Donc, aujourd'hui, nous allons considérer le premier point. Nous avons un ennemi. Et la semaine prochaine, nous allons parler que de la vérité que nous avons une alliée. D'abord, nous avons un ennemi. Le premier ennemi qu'Israël devait vaincre en Canaan était le roi de Jéricho. La ville de Jéricho était une ville stratégique. Elle était le point d'entrée en Canaan. Et elle était un centre commercial important qui était le carrefour des marchands dans cette région à cette époque. Elle était 22 kilomètres l'ouest du Jourdain et donc elle gardait le passage en Canaan. Le roi de Jéricho ferait tout ce qu'il pourrait pour empêcher Israël d'entrer et de posséder la terre. C'est pourquoi au verset 1, dans le texte que nous avons au verset 1, Josué dit aux espions, « Allez explorer le pays, en particulier Jéricho. » Alors, Josué était un bon stratégiste militaire. Il savait qu'il doit connaître, et ça c'est ce qui est important, ça c'est la leçon, je ne pense pas de faire une exégèse de tout le passage, mais c'est cette idée ici qu'on va développer en appliquant à notre jour. Josué savait qu'il doit connaître son ennemi s'il veut le vaincre et s'emparer de la terre promise. Donc il a envoyé ses deux espions dans le territoire de l'ennemi pour le connaître. Et même si on a l'impression, si vous avez vos Bibles au verset 2, même si on a l'impression que ces deux hommes n'étaient pas trop doués en tant qu'espions, leur mission a été quand même un succès pour Josué. Donc je le dis parce qu'au verset 2, vous allez remarquer que tout de suite après qu'ils sont arrivés, ils étaient les espions, tout de suite tout le monde dans le Jéricho savent qu'ils étaient là. Donc, je ne sais pas à quelle qualité d'espion ils étaient, mais de toute façon, la mission était réussie. Comme pour Josué, comme pour Israël, nous aussi, nous avons un ennemi qui veut faire tout pour nous empêcher de prendre en possession la vie promise en Jésus-Christ. Jésus nous dit, nous en parle, c'est Satan, l'adversaire de Dieu. Jésus nous dit ici, en Jean 10:10, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et ça, c'est qui? Il parle du diable, il parle de Satan. Il veut nous égorger, il veut voler notre joie, voler notre paix, voler notre amour. Il est contre nous, il est contre Dieu. Nous voyons aussi, l'apôtre Paul nous en parle aussi, au verset 6, verset 10 à 12. Paul dit, « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force tout-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. En fait, Jésus, l'apôtre Paul, nous affirme que nous avons un ennemi, et c'est Satan qui est l'adversaire de Dieu. Satan est connu par des noms différents dans la Bible, si vous lisez la Bible. Le diable, qui veut dire accusateur. Le père de mensonges, le meurtrier, le malin, l'ange de lumière, le serpent et plein d'autres appellations. Son but est d'opposer Dieu et tous ceux qui veulent obéir à Dieu. Et nous devons affirmer et être conscients de son existence personnelle. Il ne s'agit pas d'un mythe ou superstition. Le théologien J.M. Nicole il dit ceci, « Le comble de l'astuce pour le diable est de faire croire aux gens qui n'existent pas. » Ça, c'est ce qu'il veut. Regarde cet article dans le Figaro. C'était en novembre passé. La question d'existence du diable agite l'Église catholique. Ce n'est pas pour parler de l'Église catholique, parce que ça existe aussi, ces croyances dans l'Église évangélique parfois et dans d'autres églises. Donc, ce n'est pas que je mets le point, mais c'est juste pour soulever la question. Le supérieur des Jésuites estime que Satan n'est qu'un symbole. Le pape n'est pas sur cette ligne. L'existence, dans l'article, il dit l'existence réelle du diable est l'une des questions les plus mystérieuses qui soient. Les théologiens en parlent peu. Mais quand le sujet sort de l'ombre, il fait du bruit. Ainsi, la déclaration récente du père Arturo Sosa, vénézuélien et surtout nouveau supérieur général de la Compagnie de Jésus, les Jésuites, depuis le 14 octobre dernier, dans une interview accordée au journal espagnol El Mundo, je ne parle pas l'espagnol, le 31 mai, le père Sosa a considéré contre l'enseignement le plus classique, le catéchisme de l'Église catholique. On parle à 37 reprises que le diable n'est qu'un symbole sans réalité. Je vous dis que ça fait plaisir au diable. S'il peut faire croire qu'il n'existe pas, il peut faire tout ce qu'il veut sans être soupçonné. Mais nous ne devons pas tomber dans cette erreur. Comme Josué, nous avons un véritable ennemi. Et alors, comme Josué a envoyé des espions pour connaître son ennemi, nous aussi devons connaître notre ennemi. Et ce que je veux faire dans les quelques minutes qui nous restent, est d'explorer le terrain, pour explorer la parole de Dieu, pour voir qui est cet ennemi que nous avons. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne de son sujet? D'abord, Satan, il est une création de Dieu. Il faut le savoir. Mais celui qui est aujourd'hui est Satan n'a pas été créé mauvais. Il était un être spirituel et magnifique et bon au début, créé par Dieu. Mais à un certain moment avant la création du monde, il a révolté contre Dieu. Il est devenu son ennemi. Et nous n'avons pas beaucoup d'informations dans la parole de Dieu de son origine et pourquoi tout cela, beaucoup d'informations concernant sa chute. Des interprètes de la Bible, de l'Écriture, voient une référence de sa chute dans ses prophéties, les prophéties d'Ésaïe et les prophéties d'Ézéchiel. Est-ce que je peux demander à quelqu'un de lire pour moi Ésaïe 14, 12 à 15 et après quelqu'un d'autre pour Ézéchiel?
Ésaïe 14, 12 à 15. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je siégerai sur la montagne de la rencontre à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au Très-Haut. Pourtant, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la tombe.
Ok, merci. Quelqu'un d'autre, Ézéchiel, 28, 12 à 17. Juste 12 à...
C'est la même chose. En fait.
Oui, c'est presque la même chose. Oui.
Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, Je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je siégerai sur la montagne de la rencontre à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au Très-Haut. Pourtant, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la tombe.
Ok.
C'est la même chose.
Est-ce que j'ai... Ah, bon.
C'est exactement la même chose.
Ah. Zut. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la Bible? Quand j'ai fait copie-collé, je pense que j'ai fait une erreur. Quelqu'un d'autre peut lire 28, 12 à 17.
12 à 17?
Oui, je pense.
Fils d'homme, entendre une complainte sur le roi de Tyr, tu lui diras ainsi par le Seigneur l'Éternel. C'est ça?
Oui,
c'est ça.
Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Les tambourins et tes flûtes, étaient à ton service. Préparé pour le jour où tu fus créé, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu te promenais au milieu des pierres ardentes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi. Par l'importance de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'exclus de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur. Du milieu des pierres ardentes, ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ta splendeur. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi.
Ok, merci. Donc, si c'est vrai, comme les interprètes de la Bible pensent, que ces deux passages sont des références à, il s'appelle Lucifer à l'époque. Et donc, si ça parle, nous avons cette image, que Lucifer, c'était un ange glorieux, puissant, magnifique. Et à un certain moment, il a dit, mais pourquoi pas que je sois Dieu et que c'est moi qui commande. Et à ce moment, il est tombé, il a chuté et la parole de Dieu nous donne l'indication qu'il est il a pris une tierce des anges avec lui pour chuter. Et ça devient Satan maintenant et les démons. Donc nous avons et ça commence en fait ce qu'on appelle le royaume des ténèbres dont Colossiens chapitre 1 nous parle ou aussi Éphésiens chapitre 6, 12 nous parle. Donc voilà l'origine de Satan. La Bible affirme que Satan est un être puissant et qui veut nous faire de mal et nous détourner du chemin de Dieu. Écoutez 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. Il dit ceci. Le diable peut faire toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Donc, nous voyons qu'il a cette capacité de faire les choses. Nous pouvons voir dans la parole de Dieu les événements différents où il exerce ce pouvoir de faire les miracles, faire les signes, faire le mal. Donc nous devons prendre garde de lui. Cependant, cela dit, ce serait une grave erreur pour nous de voir Satan sur le même plan que Dieu. Il est limité, Satan. Limité dans tous les domaines où Dieu n'est pas limité. Satan et ses démons n'existent pas de toute éternité comme Dieu. Il est créé. Et c'est vrai que Satan et ses démons disposent d'une grande puissance mais ils ne sont pas tout puissants comme Dieu. Ils ne peuvent pas faire tout. Donc ce n'est pas Dieu et la force des ténèbres. C'est Dieu qui est au-dessus de tout. Il est petit en comparaison de Dieu. D'accord? Satan peut parcourir la terre d'une manière surnaturelle, mais il n'est pas omniprésent comme Dieu. Il ne peut pas être à plusieurs endroits à la fois. C'est Dieu seul qui est omniprésent. Dieu est partout, en tout moment. Mais Satan ne peut pas. Il ne peut pas être ici à Mérignac et aussi en Floride. Je ne sais pas comment il se déplace. Et évidemment, il a cette capacité de le faire vite. Mais il n'est pas omniprésent. Aussi, Satan est limité dans ses connaissances. C'est vrai qu'il est très malin et qu'il est beaucoup plus intelligent que nous, mais il n'a pas toute la connaissance comme Dieu. Un exemple est la mort de Jésus sur la croix. Satan pensait qu'il a gagné une grande victoire en inspirant les gens de mettre Jésus à la mort. Mais en fait, c'était son plus grand échec. Ouais. Et de plus, il n'y a pas d'indication dans la Bible que Satan peut connaître l'avenir comme Dieu connaît l'avenir. Il est en train de chercher, mais il ne peut pas connaître l'avenir comme Dieu. Et où lire dans nos pensées comme Dieu peut le faire. Donc, voyez que c'est vrai que nous avons un ennemi, mais il est limité. Dieu est au-dessus de lui. C'est Dieu qui est souverain, c'est Dieu qui est commande, c'est Dieu qui est en contrôle, pas lui. Ce n'est pas deux forces comme dans les Star Wars opposées. C'est Dieu qui est le roi. C'est Dieu qui est le souverain. Il est en dessous, même s'il est puissant. Dans l'histoire racontée en Josué chapitre 2, les espions ont découvert que leurs ennemis ont déjà entendu de grands exploits de Dieu. Ils avaient peur. Regardez le verset 8 à 11. Avant que les espions se couchent, Rahab montait vers eux sur le toit et leur dit, « Je le sais, et l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous et tous les habitants du pays tremblent devant vous. » En effet, nous avons appris comment, à votre sortie, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens de l'autre côté du Jordan, Sion et Og, que vous avez exterminés. En l'apprenant, nous avons perdu courage, et notre esprit a battu devant vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans le ciel et en bas sur la terre. Je trouve ce passage extraordinaire. Rahab, elle n'avait pas une Bible, elle n'avait pas une église. C'était une prostituée en Jéricho. Et elle et tout le peuple de Jéricho, ils ont déjà entendu ce que Dieu a fait en Égypte. Ils ont déjà entendu ce que Dieu a fait dans l'Est de Jordan, dans le Transjordanie, ou je ne sais pas comment le dire, comment ils ont vaincu les autres. Ils ont déjà vu toutes les grandes choses que Dieu a fait et ils avaient peur. Ils tremblaient. Imaginez la confiance et le courage cette information aurait donné à Josué et le peuple d'Israël avant d'entreprendre la conquête. Wow! Ils ont déjà peur de nous. Et c'est pareil pour nous, comme les chrétiens. Il faut comprendre que notre ennemi Satan et tous ses démons sont déjà vaincus. Cette victoire a été déjà annoncée à Ève. Après la première confrontation de Satan, nous voyons dans le chapitre 3 de Genèse cette prophétie qui était donnée à Ève que Satan, le talon de Ève va craser la tête du serpent. Et c'est qui? C'est Jésus. c'était déjà prophétisé et cette prophétie a été accomplie par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Regarde ce que Colossiens chapitre 2, verset 15 nous dit. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Satan est un ennemi et ses démons sont les ennemis vaincus. Nous voyons Éphésiens chapitre 1, verset 18, donc par la mort de Jésus sur la croix. Éphésiens 1, 18 à 21. Je prie qu'il illume les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Et c'est l'apôtre Paul. Il est en train de. Ça, c'est sa prière pour les croyants. Et notez la troisième chose. Et quelle est. Et pour que vous sachiez quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Donc, il reprend ces choses au chapitre 6, quand il parle des pouvoirs de ténèbres, le royaume des ténèbres. Donc, Satan est un ennemi vaincu. C'est vrai que dans ce monde, il y a encore une bataille. Mais la guerre est déjà gagnée, d'accord? Donc, dans cette vie, il y aura encore des choses, mais cette vie et cette guerre est déjà vaincue. Regardons maintenant Apocalypse chapitre 20, verset 10. Le diable qui les a égarés fut jeté dans les temps de feu et de soufre où ils sont la bête et le prétendu prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Satan et ses cohortes seront jetés en enfer pour toute l'éternité. Donc, c'est vrai que nous avons la bataille maintenant, mais la guerre, et c'est bon d'être sur le côté des gagnants, n'est-ce pas? Ce n'est pas une bonne chose d'être sur le côté nous sommes sur le côté des gagnants, côté de Dieu. Et Satan est perdu. Alors, nous devons être conscients, comme Josué, la leçon que je tire de cette histoire. Et Josué, comme un bon militaire, il savait qu'il devait connaître son ennemi. Et nous aussi, nous devons connaître notre ennemi. Nous devons connaître aussi ses tactiques et ses stratégies pour combattre contre nous. Ces tactiques sont nombreux. Donc, c'est là que j'ai commencé d'avoir un problème pour préparer ce message, parce qu'il y a tellement d'informations, tellement de choses. J'ai dit, je vais le mettre dans un tableau, et ce message et le tableau sera sur l'Internet. Donc, vous cliquez sur notre site Internet, ressources, et vous allez trouver tout cela. D'accord? Sur les ressources des prédications. Mais nous voyons que le diable, il a des tactiques différentes et ils sont nombreux. J'ai noté juste quelques-uns. Le mensonge, ça c'est une tactique qui préférée du diable. Jésus nous dit en Jean 8, 44 qu'il est le père du mensonge. Il est le menteur depuis le début. Il va utiliser, il va mettre les mensonges dans nos vies. Nous voyons, juste dans la tentation d'Yves. Eve, pas Yves. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est pénible, n'est-ce pas, d'écouter cet accent américain. C'est pénible pour moi, même. Mais en tout cas, Eve... Le diable est venu et mais est-ce que Dieu a vraiment dit que tu ne peux pas manger de cet arbre? Tu vois, il a détourné la parole de Dieu. Il a menti à Ève. Et ça, c'est ce que le diable fait avec nous aussi. Il nous donne, il y a des mensonges. Ah, est-ce que, bon, mais est-ce que c'est vraiment mauvais d'aller là ou faire ceci ou cela? Non, on va voir. Jésus, ce qui me frappe, nous avons un bon exemple de diable et son œuvre dans le baptême et la tentation de Jésus. Juste après, à la fin du baptême de Jésus, Dieu a dit de haute voix, « Tu es mon fils bien-aimé. » C'était clair. Dieu le Père a dit à Dieu le Fils, « Tu es mon fils bien-aimé. » La première chose que le diable a fait, quand Jésus était dans le désert et il était tenté par le diable, il dit, « Si tu es le Fils de Dieu, si tu es. » Un mensonge, un doute. Ah oui, vous voyez, c'est comme ça que le diable, il travaille. J'ai pensé pour chaque... Je vous donne, on ne dit pas tout, je vais juste résumer, mais ce que je pense qu'on va faire, je vais dire la tactique, peut-être, et j'aimerais bien lire au moins une promesse, un arme que nous avons. Donc, si quelqu'un peut lire Jean 8, 31 et 32, qu'est-ce que nous devons faire? Quelle est notre arme contre cette tactique du diable, le mensonge? Si quelqu'un l'a, vous pouvez le lire.
Si vous demeurez dans la parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.
Ok. La vérité vous affranchira. Nous devons connaître la vérité. Il y a quelques semaines, j'ai dit, il faut être attaché à la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu. Avoir confiance dans la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que nous allons voir la vérité. Et cette vérité va nous affranchir. Bon. Deuxième chose, tactique à l'accusation. En fait, c'est ça que j'ai voulu dire pour Jésus. Après son baptême, quand il a dit « Si tu es le Fils de Dieu ». Nous voyons constamment le diable, c'est qui veut dire accusateur, il vient pour nous accuser. Ah, tu es comme ça, tu n'es pas vraiment un enfant de Dieu. Si tu étais un enfant de Dieu, pourquoi tu as fait ceci? Il nous accuse toujours. Mais nous devons dire, quitte-moi. Parce que oui, c'est vrai ce que tu dis, mais je suis en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, je suis juste. Ce n'est pas ma justice. Mais la justice de Jésus. Donc, il est notre accusateur. Il va t'accuser. Il utilise cela toujours pour t'éloigner de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire Romains 31 à 39? Et quelqu'un peut préparer 1 Corinthiens 10, 13 déjà? Quelqu'un d'autre, Éphésiens 6 et 16?
Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou le dénuement ou le péril ou l'épée? Selon ce qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme les brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur.
Ok, merci. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus. Rien. En Jésus-Christ, nous sommes sûrs. En Jésus-Christ, nous sommes justes. Et ne permettez pas que le diable vous accuse. Vous courir au pied de la croix et vous demander pardon et vous recevez la grâce du Seigneur. Il utilise la séduction. Il nous séduit. En fait, 2 Corinthiens 11, 14 dit « Ange de lumière ». Il est Satan et ange de lumière. Il se déguise pour nous tromper, pour nous séduire. Il peut utiliser même les bonnes choses dans nos vies. Je vous donne un exemple. Quand j'étais nouveau converti, j'étais très zélé pour évangéliser. Je vais partout, dans les commerciales, centres commerciales,
commerciales,
ou dans les parcs. Et je me souviens un jour, j'étais en train de parler avec les gens au sujet de Jésus. Il y a deux jeunes hommes de mon âge, j'avais 19 ans. Ils sont venus pour me voir et dire, ah vraiment, tu es zélé pour parler de Jésus. Il faut nous rejoindre. J'étais à l'époque à l'école, à l'université pour les études bibliques et pour préparer à devenir pasteur. Et il a dit qu'il faut laisser l'école, il faut nous rejoindre. Nous allons évangéliser ensemble. Et j'étais, waouh, oui, c'est bon, on laisse l'école, on laisse toutes ces autres choses, je vais le joindre. Mais sans savoir qu'ils étaient un secte qui s'appelle le Way aux États-Unis, ça existe ici en France. Et j'ai presque le rejoint, mais j'ai parlé avec quelques amis chrétiens et dit non, Todd. Donc finalement, j'ai trouvé que c'était un secte bizarre. Et ils utilisent même la sexualité pour évangéliser. Ils font plein de trucs. Mais parfois, vous voyez, le Satan, il est l'ange de lumière. Il peut nous séduire même quelque chose de bon dans notre vie. Donc, il faut faire attention. Il peut envoyer certaines personnes pour nous séduire du chemin de Dieu. Donc, faire attention. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire 1 Corinthiens 10, 13?
Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter.
Ok, amen. L'adversité, la souffrance, les épreuves, Satan aime utiliser ses tactiques aussi pour nous décourager. Jean-Yves et Sylvain et moi, dans notre GDC, nous venons de terminer Job. Il faut lire Job. Mais Job était Satan, il est venu pour attaquer Job. Et plein de souffrances, plein d'épreuves. Et dans le moment de souffrance, nous pouvons avoir le découragement spirituel. Et Satan veut utiliser les épreuves pour nous éloigner de Dieu. Donc il faut faire attention de cette tactique. Oui, les épreuves vont arriver. Il y a la souffrance. Mais Jésus est plus grand, il est vainqueur. Donc, nous devons mettre notre confiance en lui. Si quelqu'un peut lire Éphésiens 6, 16.
Prenez aussi le casque du salut. Ah non. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin.
D'accord. Il envoie les flèches pour nous attaquer. Mais nous avons le bouclier de la foi en Jésus-Christ. Et nous pouvons tenir ferme dans la foi. Il utilise la peur. En 1 Pierre 5, 8, il dit que le diable, il rôde comme un lion rugissant pour faire peur. Mais nous voyons qu'il n'a pas, il est juste de le voir, il n'a pas la capacité de. Donc, il ne faut pas se laisser éloigner par la peur. Donc, il y a beaucoup que je peux dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire Romains 8, 15? Romains 8, 15.
Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions à Père. Okay.
Nous n'avons pas besoin de la crainte, la peur, parce que Dieu est avec nous. Il y a plein d'autres passages. Bon, peut-être que quelqu'un peut lire Jean 14, 27 aussi.
Jean
vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point.
Ok, ok. N'a pas peur. Il utilise aussi l'orgueil. Ça, c'est peut-être le plus grand tactique. Notre orgueil. Ça, c'était le problème pour Lucifer. À un certain moment, il a dit que moi, je veux être Dieu. Pourquoi moi, je dois obéir à Dieu? Je veux prendre sa place. Et il utilise, il y a des passages que nous pouvons voir. Mais quelle est notre âme? Si quelqu'un peut lire 1 Pierre 5, 5 à 6.
Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
Ok.
Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps
venu. Ok, et c'est juste après cela qu'il part du diable. D'accord? Donc, il faut avoir humilité. Bon, il y a beaucoup que je peux dire. Je veux juste terminer en parlant de trois pièges et trois promesses, pour terminer. En fait, nous pouvons avoir des réactions différentes en concernant Satan. Nous pouvons avoir la réaction ignorer Satan. Non, il n'existe pas. Satan sera content si nous prenons cette réaction. Il n'existe pas. Il y a d'autres qui... Un autre piège est de blâmer Satan. Et je m'explique peut-être. Il faut blâmer Satan. Mais dans ce sens, il pense que c'est... Satan, c'est le diable qui m'a fait agir. J'espère que c'est le bon français. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous comprenez ce que je voulais dire?
Oui.
D'accord. C'est le diable, c'est sa faute. Mais il faut comprendre que nous avons une responsabilité, nous. On ne peut pas dire que je suis impuissant. Non, nous ne sommes pas impuissants face aux attaques du diable. Nous avons les armes spirituelles. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons la vérité, nous avons tous pour vaincre, pour vivre en vainqueur avec Jésus-Christ. Donc on ne peut pas pointer le doigt et dire que c'est sa faute, moi je suis impuissant. Non, ce n'est pas vrai. Donc un autre, c'est craindre, oh non, qu'est-ce que je vais faire? Je suis perdu. Non, parce que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous avons... Tout ce que Jésus a vaincu, le diable et ses forces sur la croix de Calvaire et par sa résurrection. Donc, ce n'est pas, nous ne voulons pas tomber dans ces pièges en ce qui concerne le diable. Mais nous avons trois promesses. Et je vous demande à trois personnes de lire ces promesses.
Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable. Sachez que les mêmes souffrances se sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles.
Chaque 4-7.
Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, il fuira loin de vous.
Ok. Éphésiens 6, 10 à 11.
Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable.
C'est vrai que nous avons un ennemi, mais nous sommes plus que vainqueurs. Nous devons connaître notre ennemi, connaître ses tactiques et vivre en vainqueur avec Jésus-Christ. Et gardez cette phrase pour vous. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Je prie que tu nous aides de vivre en vainqueur avec ta force. Et nous prions en ton nom, Seigneur. Amen.